house.
La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat.
En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
Si la radio que nous connaissons aujourd'hui passe par l'écoute de podcasts, Internet ou se transforme simplement pour devenir numérique, cela n'a pas toujours été le cas. Pour arriver aux technologies d'aujourd'hui, la radio a dû passer par beaucoup d'étapes et surtout beaucoup de successions d'inventions. Nous avons déjà évoqué Monsieur Morse et la télégraphie en 1840. Nous avons également parlé des ondes hertziennes de Monsieur Hertz, ce qui a ouvert la voie à la télégraphie sans fil mais aussi à la radiodiffusion. Parlons maintenant d'un autre grand personnage de l'histoire de la radio. Parlons de Nikola Tesla. Alors non, n'énumérez pas, ça ne sert à rien, vous ne les aurez pas tous. Car Monsieur Tesla se cache derrière près de 300 brevets couvrant au total 125 inventions. Il n'y a donc pas que les voitures, oh non, loin de là. Ses travaux les plus connus et les plus largement diffusés portent sur l'énergie électrique. Au cours de l'été 1889, Tesla se rend à l'Exposition universelle de Paris et prend connaissance des expériences de Heinrich Hertz qui prouvent l'existence de rayonnements électromagnétiques. Tesla trouve cette nouvelle découverte rafraîchissante et décide donc de l'explorer plus en profondeur. Et souvenez-vous, la dernière fois, nous avions évoqué la bobine de Ruhmkorff, qui génère de l'électricité. Eh bien, Tesla va inventer sa propre bobine, la bobine Tesla. Elle va produire elle aussi de l'électricité à haute tension, mais cette fois-ci à faible courant et à haute fréquence en courant alternatif. En gros, les travaux de Tesla se concentrent alors sur la haute fréquence, et plus particulièrement sur la conversion de l'électricité en lumière. De 1890 à 1906, Tesla consacre une grande partie de son temps et de sa fortune à une série de projets visant à développer la transmission d'énergie électrique sans fil. À l'époque où Tesla formule ses idées, il n'existe alors aucun moyen de transmettre sans fil des signaux de communication sur des longues distances. Il étudie alors les ondes radio et arrive à la conclusion qu'une partie de l'étude existante de Hertz à leur sujet est incorrecte. En plus, Tesla note que même si les théories sur les ondes radio sont véridiques, elles ne l'aident pas du tout dans ses objectifs, puisque cette forme de lumière invisible diminue lorsque la distance augmente comme tout autre rayonnement et voyage en ligne droite dans l'espace, devenant irrémédiablement perdue. Donc, ça ne lui sert à rien. Mais la bobine Tesla est bien là. On a alors un générateur de haute fréquence. Nous sommes sur la fin du 19e siècle. On a un principe de base donné par la télégraphie. On sait que les ondes sont là. On peut même créer des fréquences d'ondes. Mais comment les recevoir correctement? Eh bien, on reste fin du 19e avec Édouard Branly. Le 20 novembre 1890, Monsieur Branly invente le premier dispositif de détection des ondes hertziennes. On appelle ça le radioconducteur. On peut aussi l'appeler cohéreur, mais radioconducteur c'est mieux, je préfère. En fait, lors d'une expérience, il réussit à commander à distance la fermeture d'un circuit électrique sans qu'il y ait de lien matériel entre l'organe de commande, qui est un générateur d'étincelles, et un organe sensible aux ondes électriques produites par l'éclatement de l'étincelle, qui est ici un tube à limaille tout simplement. Il a donc mis en évidence, via cette expérience, que la conductibilité variait sous l'effet des ondes hertziennes. A noter tout de même que c'est dans le mot radioconducteur que le terme radio est utilisé pour la toute première fois. Ajoutons un nouveau nom à cette longue liste. Alexandre Popov. Cette fois-ci, direction la Russie. Et on va plus ou moins simplifier grossièrement, car c'est assez compliqué. Alors, oui, je sais, depuis tout à l'heure c'est compliqué, mais là c'est encore pire. Alors, parlons vulgairement. Popov s'est inspiré du radioconducteur de Branly qui avait déjà été modifié par un certain Lodge. Donc on est à sa deuxième modification. Il a relié le radioconducteur à un relais mettant en vibration le bras d'une sonnerie électrique. Pour améliorer la sensibilité du récepteur, Popov y raccorde également le fil d'un paratonnerre. Et cet acte, en fait, c'est pas rien, puisque c'est l'acte de naissance de l'antenne filaire. En gros, Popov invente l'antenne et le récepteur. Le 7 mai 1895, Popov présente son récepteur à la Société russe de physique et de chimie de Saint-Pétersbourg et montre comment détecter les signaux d'un émetteur à étincelles. Depuis, la plupart des pays d'Europe de l'Est considèrent Popov comme le pionnier de la radio et depuis 1945, le 7 mai est fêté en Russie comme la journée de la radio. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Nous, on fête le 13 février la radio. En fait, le 13 février correspond à la date de création de la radio des Nations Unies. Ça a été proposé il y a une dizaine d'années, en 2011, par l'Académie espagnole de la radio à l'UNESCO pour pouvoir la fêter. Et ça a tout simplement été accepté. Mais revenons à Popov. Il n'est pas le seul à mener ses travaux. Quasi au même moment, un Italien nommé Guglielmo Marconi charbonne sur quasi le même sujet. Monsieur Marconi est prix Nobel de physique de 1909 en reconnaissance de ses contributions au développement de la télégraphie sans fil. Le gars pèse déjà dans le game. Il est également le fondateur de la première compagnie internationale de radiodiffusion. Donc bon, que dire de plus ? En 1895, tout comme Popov, il fait des expériences sur les ondes découvertes par Hertz. Il reproduit d'ailleurs le matériel utilisé par ce dernier. Souvenez-vous, les sphères, le câble, la bobine. Sauf qu'il va l'améliorer avec un radioconducteur de Branly pour augmenter la sensibilité et l'antenne d'Alexandre Popov. Après ses toutes premières expériences en Italie, il réalise dans les Alpes suisses à Salvane une liaison télégraphique de 2,4 km. C'est en Grande-Bretagne par la suite que l'inventeur trouve les soutiens qui vont lui permettre de mener à bien ses expériences et de fonder la compagnie Marconi, une compagnie de radiodiffusion. Et voilà pour notre première étape de franchie. On a la transmission possible sur les longues distances, mais on n'a pas encore la main sur la modulation de son et de la voix. Mais ça, ce sera pour une autre fois.